Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
C'est drôle.
Putain, moi que tu parles comme ça, hein ?
Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend
« Ils vont voir si je suis pas un bonhomme !»
on a l'impression que ça veut dire autre chose.
Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans ce nouvel épisode, c'est le rappeur Esprit Noir qui nous parle de son rapport à la masculinité. Il se confie sur son enfance et sur l'importance du sport dans son éducation, sur sa mère, son bonhomme numéro 1, et aussi sur la différence entre la façon dont les gens le voient à travers sa musique et qui il est vraiment. Nous avons pris de ses nouvelles en cette période de confinement avant de lui demander sa définition du bonhomme.
Salut Esprit, et merci de te rendre disponible par visioconférence pendant ce confinement. Comment ça se passe? Toi, t'es confiné où? Ça se passe bien? Tu vas bien?
Ouais, ça va. Hein. Je suis confiné à la maison. Je sors très peu, vraiment que pour faire les courses ou à la limite aller chercher du courrier important et tout, parce que j'ai viens de faire une structure et tout, donc du coup j'ai du courrier qui arrive. Et voilà, ça se passe. Hein. Franchement, je défends mon album à fond.
Et sortir un album en confinement, c'est bizarre, c'est particulier ou...
Ouais, c'est particulier. Je me rappellerai toute ma vie, je pense. Je pense que toute ma vie, je me rappellerai. Mais c'est un challenge à relever, en fait. C'est plus compliqué, tu vois, de pas pouvoir se déplacer pour les promos, se déplacer pour les clips, etc.
Le public a l'air d'être là, même à distance.
Ouais, c'est ça qui fait plaisir, c'est que au final, ils sont là, ils écoutent, et puis ça leur fait plaisir, tu vois, c'est surtout ça. Et il faut pas oublier que la musique, c'est avant tout un kiff, tu vois, pour nous et pour eux, je pense.
Je vais te poser la première question que je pose à chaque fois, qui démarre l'interview. C'est quoi pour toi un bonhomme?
C'est une très bonne question. Pour moi, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. C'est quelqu'un qui aussi entreprend des choses pour lui-même déjà, pour sa famille, pour ses amis, pour les gens avec qui il travaille ou. Voilà, pour moi, c'est ça, un bonhomme. C'est surtout assumer ses responsabilités, je pense, si on devait le résumer en une phrase, tu vois.
Et toi, t'es un bonhomme?
je sais pas, j'essaie de l'être, en tout cas. Après, je pense que c'est peut-être pas à moi d'en juger, tu vois, mais, je pense que c'est plus quelqu'un qui a du recul ou plusieurs personnes qui ont du recul qui peuvent vraiment en juger. Mais en tout cas, j'essaie de l'être.
Tu penses que les personnes que tu as croisées, qui gravitent autour de toi, te voient comme un bonhomme dans cette définition?
Ouais, je pense. J'espère. J'espère.
Et c'est qui les bonhommes de ta vie? Ceux que tu peux qualifier de bonhommes autour de toi, quand tu étais petit ou maintenant d'ailleurs?
Les bonhommes de ma vie, c'est marrant, mais je vais dire mon père quand même. Je veux dire, mon père, il est là. Donc, par exemple, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est mon père. Tu vois, même si j'ai pas grandi forcément avec lui et tout. Voilà, c'est mon père. Donc, c'est le premier bonhomme de ma vie, tu vois, on va dire. Mais lui, c'est de la triche.
Est-ce que ta mère qui t'a élevé, tu peux dire que c'est, enfin, tu peux la qualifier de bonhomme?
Ouais, ma mère carrément, tu fais bien de le dire, ma mère, ouais, en fait non, je mets ma mère en premier bonhomme de ma vie.
Ouais, ok, j'enregistre.
Ouais, c'est le premier bonhomme de ma vie, c'est ma mère, Ouais, à fond, franchement.
Tu peux me dire pourquoi, même si je me doute de pourquoi, et tu peux nous dire. Ouais. Ça, peux...
Écoute, elle a élevé ses enfants seule, elle est arrivée en France très tôt, seule, sans sa famille, sans pouvoir retourner voir sa famille pendant des longues années. Elle a traversé multiples tempêtes, tu vois, que ce soit financières ou sociétales. Tu vois, et aujourd'hui elle a réussi à faire de moi et mon frère des gens qui se portent bien et qui n'ont jamais manqué de rien, tu vois, on n'a jamais eu faim. Donc ouais, c'est, et puis elle nous a éduqués, elle nous a donné beaucoup énormément de choses, tu vois, pour avancer dans la vie. Donc ouais c'est elle le bonhomme en fait.
Et tu disais, t'as pas forcément grandi avec ton père, mais est-ce qu'il y a d'autres hommes comme ça dans ta vie qui t'ont servi de modèle, que ça soit dans ta famille ou des modèles à la télé, des célébrités, au ciné, en musique? Est-ce qu'il y a des figures masculines qui t'ont inspiré en grandissant?
Ouais, bah tu sais, là par exemple, je regardais un reportage sur Michael Jordan. Ça a été un bonhomme qui m'a inspiré, parce que c'est des icônes qui, dès petit, tu sais, moi je suis un passionné de sport, donc forcément tu regardes ce qu'ils font, etc., et tu te dis, ah ouais, putain, Je veux réussir. Il donne envie de réussir, tu vois. T'as aussi des gens comme, par exemple, Léopold Sédar Senghor, tu vois. C'est quelqu'un que j'ai vite connu en étant jeune, parce qu'il vient de la même île que ma maman. Si tu veux, c'est le premier président après l'indépendance du Sénégal. Donc, après 1960, ça a été le premier président sénégalais. Et du coup, il a été honoré à l'Académie française. Et voilà, pour un Africain, c'est exceptionnel, tu vois. Et ce qu'il a accompli, c'est exceptionnel. Donc, j'ai vite entendu parler de lui. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des choses qui sont possibles en partant de rien et de super loin. Moi, j'étais plus inspiré par ces gens-là, et essentiellement des sportifs, franchement, des sportifs.
Est-ce qu'il y a un modèle type de la masculinité dans ta famille, genre un type d'homme où je peux dire pour ma famille, ou dans ma culture, ou dans ma culture familiale, c'est ça être un homme, ou au contraire, ouais, il n'y a pas de règles et c'est de l'impro?
Je pense qu'il y a des règles, mais après, la vie t'oblige à improviser. En fait, tu vois un vrai bonhomme à ses capacités à improviser, tu vois, face à des trucs qu'il n'avait pas prévu. Donc ouais, dans ma famille, j'ai un oncle qui est comme ça. J'ai un oncle qui a improvisé. Lui, il a plutôt improvisé, tu vois. C'est un mec qui faisait l'école buissonnière, il faisait les 400 coups et tout. Et au final, il a terminé cuisinier dans un très beau restaurant et avec une certaine renommée, etc. Et pourtant, c'est un grand improvisateur. Donc lui, c'est un exemple.
Et t'étais quel genre de petit garçon, jusque là où tu te souviens?
Je me souviens. J'étais un peu perturbateur, un peu perturbé, dans le sens turbulent. Tu vois, par exemple, je me rappelle d'une anecdote que ma mère m'a racontée. Elle m'emmène au square, et genre, une fois que j'arrive au square, enfin, je lui mets la misère pour aller au square. Et une fois que j'arrive au square, je fais tout pour sortir du square, en fait. Je joue à l'extérieur du square au lieu de jouer à l'intérieur du square, tu vois. Et dès qu'elle met à l'extérieur du square, je veux être dans le square. Donc, j'étais plus ce garçon-là qui, genre, je tenais pas en place, en fait. Je voulais tout faire, tu vois.
C'était ce qu'on attend d'un petit garçon. Tu te sentais comme les autres garçons. Tu te sentais à ta place. T'étais bien dans tes pompes.
Ouais, j'étais super bien dans mes pompes. Franchement, je me sentais bien. J'étais même, ouais, voilà, je voulais croquer, je croquais la vie, hein. Je croquais la vie. J'avais beaucoup d'amis. Voilà, j'étais.
Ouais, c'était quoi, tes passions à l'époque?
À l'époque, le foot, beaucoup. Le foot, les jeux vidéo, la télé. C'était une vraie passion, la télé, franchement. Franchement, je pense que la télé, c'était en vrai, c'était ma première passion.
Tu regardais quoi à la télé? Les clips ou tout?
Je regardais tout, mais il y avait une seule télé à l'époque. Donc du coup, c'était compliqué, tu vois, de pouvoir regarder au final les programmes que tu veux regarder. Mais je regardais tout, du dessin animé à Sacré Soirée, à, je sais pas, sans aucun doute, tu vois, je regardais tout. C'était une manière de... Pour nous, la télé, c'était une manière de voyager, en fait.
Et tu te souviens avec tes potes, justement, peut-être c'est plus à l'adolescence, là, les références communes que vous aviez, les trucs que vous aimiez en commun, ce à quoi vous vous identifiez à cette époque-là?
Avec le recul, franchement, je te mens pas. Le truc qui m'a le plus marqué dans ces trucs-là, c'était la rentrée, en fait. J'avais l'impression qu'on était jugés, mais c'est totalement une aberration, c'est n'importe quoi. Mais à l'époque, c'était important d'avoir une bête de paire de chaussures, tu vois, de la marque sur toi, tu vois, jusqu'aux chaussettes. C'était ça, c'était genre, ah, lui, c'est un bon, enfin, genre, il est stylé.
Ça voilà, passait par le bon style homme. Pas mal, quoi.
Ouais, ça passait par le style.
Et pas par l'attitude, il n'y avait pas des choses à voir dans l'attitude aussi pour.
Si. Après, tu compenses avec l'attitude. Après, il y a aussi le classement des meufs. C'est important. Tu vois, tu sais, toi, tu. Enfin, genre, nous, les garçons, on faisait le classement des plus belles filles de la classe, tout ça. Et elle faisait le classement des plus beaux mecs et tout. Fallait être bien placé.
T'étais placé où, tu te souviens?
Ouais, ça va. J'étais là, cinq premiers, ça va. Ah, ça va.
Et est-ce qu'il y a quand tu te repenches un peu sur le passé, il y a des événements qui ont forgé l'homme que t'es aujourd'hui? Ça peut être des ruptures, des victoires au sport, des échecs. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des événements où tu dis ça a été hyper fondateur pour la personne que je suis aujourd'hui?
Ouais, je pense que le sport ça a été déjà une grosse fondation, tu vois. Le partage des choses en équipe. Savoir que tu dois compter sur ton coéquipier, sinon tu peux pas avancer, tu peux pas remporter de victoire et tout. Donc ça m'a appris beaucoup le sport. L'école aussi, la vie scolaire, tu vois, la vie scolaire ça m'a appris beaucoup. Et après un peu plus tard, bah, le décès de ma maman, ça m'a rappelé que rien n'est éternel, tu vois. Ça m'a vraiment, c'est plus que rappeler, parce que je pense qu'il y a plein de trucs qui nous le rappellent et tout. On le voit au cinéma, tu sais, t'entends des gens qui décèdent, etc., d'amis, etc., et tout. Mais quand ça arrive aussi proche de toi, bah, ça te rappelle que, ouais, en fait, vas-y, vis, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, tu vois.
Et aujourd'hui, le rapport à l'amitié, aux potes, c'est quoi? Est-ce que t'es plutôt un mec à avoir une bande de potes ou avoir quelques amis? Est-ce que t'es plutôt solitaire?
Non, je suis pas quelqu'un de solitaire. J'ai besoin des gens. Enfin, je kiffe être avec les gens et tout. Mais je pense que, par exemple, ma mère me disait souvent, des connaissances t'en auras beaucoup, mais des amis t'en auras peu. Et aujourd'hui, voilà, tu sais sur qui tu peux compter. Il y a des gens sur qui tu peux compter, d'autres que tu vois un peu plus comme ça. Voilà.
Pour être dans tes bons amis, dans ton entourage proche, il y a des commandements comme ça à respecter.
Juste le respect, tu vois. Juste le respect. Après, chacun a sa personnalité, chacun a ses trucs, ses défauts, ses qualités. Mais juste le respect, tu vois. Tant que on se respecte, c'est bon, c'est cool.
Cool. Est-ce qu'il y a des codes communs ou clichés ou communs de la masculinité auxquels tu réponds totalement, où tu dis « Ah ouais, ça, je suis vraiment dans la définition de masse de l'homme » et d'autres, au contraire, où tu dis « Ah ça, je suis pas du tout comme la société décrit un homme »
C'est un peu pour moi, c'est un peu abstrait, parce que je pense que peut-être que chacun... c'est vrai qu'il y a peut-être des codes communs de la masculinité, mais moi, je sais pas, je dirais... je sais même pas. Je pourrais même pas. En vrai, je sais même pas.
Tu te poses pas la question.
Ouais, je me pose pas la question. Tu vois. Je me dis pas, putain, je suis un homme, il faut que je fasse ça. Tu vois, je réfléchis pas du tout comme ça. Ouais, je suis un homme, il faut que je fasse ci, il faut que je me comporte comme ci, parce que je suis un homme. Non, en fait, je suis moi déjà, tu vois, avant d'être un homme ou une femme, tu vois. Je définis pas des trucs comme ça, tu vois. Je dis pas, à l'inverse, hein. Je me dis pas, ouais, ah, c'est une meuf. Donc, du coup, machin. C'est
naturel, ouais, c'est assez serein pour
toi. Ouais, je vois ça plus comme des accomplissements d'humains que de d'hommes ou de femmes, tu vois. Je suis pas trop dans ce clivage-là.
Et l'homme que t'es aujourd'hui, la personne que t'es aujourd'hui, tu la décrirais comment?
Je dirais déterminé, à la fois quelqu'un qui se remet beaucoup en question, donc pas mal de doutes quand même, tu vois. Pas mal de doutes, mais la détermination l'emporte et je dirais, je sais pas, avenant, ouais, je suis avenant, je pense que je suis avenant. J'essaie de comprendre ce qui se passe autour de moi, j'essaie de, découvrir les choses, les gens, les pays, être curieux, quoi.
Si tu dois des sous en pas casser ta quoi, ils ne comprendront jamais mon état d'esprit noir. Comprendront jamais. On prend des risques tous les soirs. On prend des risques tous les soirs. Mais ils ne comprendront jamais.
C'est quoi pour toi être viril?
ça aussi, pour moi, c'est abstrait. Tu vois, je sais pas. Être viril. En vrai, c'est abstrait. Si tu te sens viril, t'es viril. Mais tu vois pas.
Mais ouais, toi, par exemple, ça, tu te sens viril?
Ouais, je pense, je sais pas.
Et ça passe par ton physique, ta voix, ton attitude?
En fait, déjà, je pense que c'est compliqué de se définir soi-même viril. Je pense que c'est plus un adjectif qualificatif qu'une personne peut te donner. Si tu te donnes à toi-même, c'est un peu bizarre, tu vois, je trouve. Mais je pense que s'il doit y avoir des définitions, etc., ou des critères à remplir, je pense que ouais, ça passe par l'attitude. Hein. Je pense que ça passe par l'attitude. Après, l'attitude, c'est un ensemble de plein de trucs. Tu vois, l'attitude vestimentaire, l'attitude, la manière dont tu te portes, tu te comportes. Et ouais, ta voix aussi, peut-être, aussi, qui joue. Donc, ouais.
Et toi, tu as toujours été à l'aise avec ton apparence physique? Tu t'es toujours senti bien dans ton enveloppe corporelle, si je peux dire?
Pas toujours. Je me rappelle d'une période où j'avais peut-être 11, 12 ans et je me trouvais un peu, j'étais un peu gros, tu vois, dans le sens où j'avais besoin de, enfin, je jouais au foot à mort et j'étais trop lent, en fait. J'avais un peu, j'étais pas gros de ouf, hein, mais j'avais un poids qui faisait que j'étais lent. Et du coup, c'était ce moment-là qui était dur pour moi, tu vois. Pendant un ou deux ans, tu vois, tout le monde me disait, t'es lent. Donc, j'ai compensé par d'autres trucs, par de la technique ou une analyse de jeu différente, machin. Et du coup, je compensais par autre chose. Mais ça me gênait, tu vois. Ça me gênait.
Et t'as dû perdre du poids suite à ça ou?
Non, même pas. Ça s'est fait tout seul. En vrai, ça s'est fait tout. Mais j'étais pas super gros, hein. C'est juste que j'étais lent. J'étais très, très lent. Et d'un coup, je me suis affiné. D'un coup, j'ai grandi encore plus. Et j'ai été rapide. Et du coup, c'est quand j'ai été rapide que je me suis dit, ouais, j'étais vraiment lent et ça m'a handicapé, en fait.
Et tu trouves que ton physique représente bien qui t'es à l'intérieur?
Alors là, c'est une bonne question. ouais, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, je pense que je suis. Ah non, quoique. Quoique, non, je te dirais non. Et encore une fois, par rapport au regard des autres. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens dans, que je rencontre dans la rue ou quoi, genre des gens qui écoutent ma musique et tout. Et ils me disent, quand je t'ai vu, je pensais pas que t'étais, même si on a parlé 2-3 minutes et qu'ils me connaissent pas à fond, ils me disent, ah ouais, on avait l'appréhension de se dire, ouais, il est méchant parce que dans tes clips, t'as l'air méchant.
T'as l'air plus sombre dans ta musique que dans ton apparence, ouais, dans ton attitude.
Dans ma vie de tous les jours. C'est fou parce que j'ai l'impression d'être pareil, mais il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ça et depuis pas mal de temps, tu vois. Donc non, je pense que ouais, ça reflète pas exactement.
Est-ce que t'es quelqu'un qui fait attention à son apparence physique?
Par contre, oui, pour les habits, ouais, j'aime bien m'habiller. Tu vois, comme je te disais, quand t'es petit, voilà, t'arrives dans un truc ou un peu de code où, voilà, t'es jugé par l'apparence et tout, et c'est important. Donc, du coup, tu prends l'habitude de bien t'habiller. Donc, du coup, moi, maintenant, c'est un réflexe.
Le détail auquel tu le fais plus attention sur toi, la chose que tu vérifies le plus avant de sortir, d'aller voir des gens, c'est quoi?
Franchement, je vais vérifier. Je vais vérifier que ma crème soit bien mise, tu vois, sur mon visage. Ça, je vais vérifier, ouais. C'est important.
Et c'est quoi être élégant pour toi, l'élégance?
Franchement, je vais donner une image vestimentaire. Pour moi, par exemple, les costumes, c'est l'élégance pour moi.
T'en mets des costumes?
Ouais, jamais. J'aime beaucoup en mettre. Franchement, j'aime beaucoup en mettre. Depuis petit, tu vois. Je suis amené à en mettre et j'aime bien ce truc-là. Mais pour moi, ça reflète un peu l'élégance vestimentaire. bien que on puisse être élégant avec d'autres choses, mais après sinon quelqu'un d'élégant, je pense que c'est quelqu'un qui a de la prestance et qui transmet quelque chose de positif, je pense. Tu vois, pour moi, en tout cas, ça se résume à ça. Tu vois, élégant, quelqu'un d'élégant, c'est quelqu'un qui transmet quelque chose de positif.
Et c'est quoi pour toi le plus beau compliment qu'on puisse faire à un homme ou la plus belle qualité à avoir quand t'es un homme?
Je pense, pour revenir au début de l'interview, c'est à partir du moment où on me dit, ouais, t'es un bon homme, je pense que, ouais, c'est. Et on peut le dire pour une femme aussi, tu vois, c'est la plus grosse des qualités. Et quand on dit que t'es quelqu'un de bien, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une personne, tu vois, homme ou femme.
Autre sujet, t'es romantique en amour?
Non, je suis pas trop fleur bleue, tu vois, je suis pas trop dans ça. Après, je suis pas non plus distant. J'ai juste des manières, des manières bien à moi de montrer que j'aime bien la personne, tu vois. Je pense que je suis plus, tu vois, par exemple, je vais rigoler. Si je fais rigoler la personne avec qui je suis, c'est que, vas-y, je l'aime bien, tu vois. Si je fais tout pour qu'on rigole et tout, c'est que je préfère ça qu'être tout le temps collé, tu vois. Je suis pas forcément tout le temps collé, tu vois.
Et t'es quelqu'un de sensible?
Ouais, à mort.
Ça se traduit comment?
Sensible pour moi, c'est sensitif, c'est voilà, les odeurs, le goût, ce qui se passe autour de toi. Ouais, je suis sensible.
T'es réceptif à tout ça. Est-ce que tu exprimes tes émotions? Tu parles de tes émotions, de ce que tu ressens, ou est-ce que tu les enfouis plutôt?
Ça dépend. Parfois oui, parfois non. Parfois je vais me dire que c'est pas nécessaire, tu vois. Je vais me dire que c'est pas nécessaire parce que c'est des émotions qui m'appartiennent et que je sais pas si ça pourrait être compris de l'autre côté, donc ouais, parfois je sais que c'est important pour moi de sortir certains trucs pour avancer, en fait, tout ça.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent quoi qu'il arrive, par exemple des scènes dans un film où tu sais qu'à chaque fois là ça va te monter les larmes, ou des types de musique, ou est-ce qu'il y a des choses où tu sais que ça c'est ton point sensible?
Ouais. Il y a des trucs, je vais pas dire, ouais, j'ai pleuré devant un film, jamais, mais je sais pas, je te donne l'une des premières sensations dont je me rappelle, c'est quand le Mufasa, il meurt, tu vois. Incroyable.
Horrible.
Ouais, incroyable. Tu vois, cette sensation de t'as l'impression, t'es dans le dessin animé, en fait. Genre, c'est ton père, tu vois. Donc, quand t'as ces sensations-là, oui, bien sûr que ça veut dire qu'un film, il peut t'émouvoir, tu vois. Donc, ouais, bien sûr, il y a des films où, je me rappelle, Titanic, tu vois. C'était triste, quand même. Bien sûr, je vais pas rigoler en mode, ah, non, c'est un film et tout. Tu sais, des fois, t'es pris, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est beau dans l'art. C'est que tu peux être pris. Tu peux être pris par un son aussi. Tu vois, il y a des sons qui te rappellent des souvenirs ou qui te donnent des sensations et tout. Et voilà, tu vois, moi je me rappelle d'un concert que j'ai fait où je chantais un son qui avait un peu un rapport avec ma mère et tout, et ça m'a ému, tu vois. Ça m'a ému de penser à plein de trucs, tu vois ce que je veux dire. Donc
t'es quelqu'un qui pleure souvent?
Non, pas souvent, même quand il y a eu ce décès là et tout, je suis pas pleuré tout de suite, tu vois. Donc non, pas souvent.
Et on l'a un peu évoqué, le sujet de ta mère, mais là je veux plus parler de, en général, que le thème de la mère dans le rap, il est assez présent, et on voit qu'il y a des rappeurs qui n'ont pas peur de parler de leur mère, de leurs émotions, alors que le père, justement, c'est plus enfoui, on n'en parle pas. Tu penses que c'est dû à quoi?
Je pense la pudeur du père, déjà. Je pense que le père, en tout cas moi je parle de ma, on va dire entre guillemets, de ma communauté. Le père africain, c'est quelqu'un qui est pudique. Il va jamais te dire je t'aime ou des choses comme ça. Ça, c'est sûr et certain, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement pudique. Donc du coup, toi, tu t'es pudique aussi avec lui. La mère, c'est différent. La mère, elle te témoigne des sentiments. Tu vois, même si c'est des sentiments où elle s'énerve et tout à mort, elle témoigne quand même des sentiments, tu vois.
Mais est-ce que du coup, il y a plus de reconnaissance, par exemple, quand un artiste écrit un morceau ou qui réussit, il y a plus de reconnaissance envers la mère, et du coup, on le signale plus, ou c'est juste qu'on n'a pas envie de montrer, on reproduit ce que son père nous a donné, on n'a pas envie de montrer ses sentiments?
Ouais, je pense que d'une manière un peu abstraite, bah, les mères sont plus présentes dans nos vies. Tu vois, sont plus présentes dans nos vies. Moi, il y a moins de distance. Le père, la pudeur, elle est tellement forte que, bon, le père, c'est pas pareil, tu vois. Le père, ça va être de l'autorité ou ça va être un amour témoigné différemment.
Est-ce que tu arrives à te projeter dans l'avenir, dans 10, 20 ans? Est-ce que tu sais comment tu te vois ou c'est abstrait pour toi, t'as pas de projection? Est-ce que tu te vois plutôt icône ou papa ou mari ou solitaire ou... Est-ce que tu as projeté ça?
Ouais, déjà, je me vois père, ça c'est sûr. Après, professionnellement parlant, je sais pas. Sur 10 ans, j'arrive pas à me projeter et savoir ce que je vais faire parce que 10 ans en arrière, je m'imaginais faire autre chose. Et je sais que la vie, elle est pleine de, aujourd'hui, je sais que la vie, elle est pleine de surprises. Donc, je peux me projeter en me disant, bon, vas-y, j'espère que j'aurai, telle ou telle chose matérielle, tu vois. Je suis plus dans une projection matérielle que dans une projection, carriériste, j'ai envie de te dire, tu vois. Je sais pas ce que je ferais, je sais pas si demain je serai producteur, je sais pas si demain je ferai du cinéma, je sais pas si demain j'arrêterai tout et je sais pas, j'aurai un restaurant, ou si je serai au Sénégal, ou si je serai en France, tu vois, je sais rien. Franchement, je sais pas.
Et déjà, pour parler plus proche dans le temps, tu sais la première chose que tu vas faire en sortant de confinement?
Bah, je vais prendre ma moto et me déplacer quelque part, je sais pas où. Et je pense que le temps de déplacement va se rallonger parce que tellement je vais kiffer, tu vois, je vais kiffer mon tour en moto. Mais du coup, ouais, je pense que je vais rejoindre des potes ou aller dans mon quartier, je pense que ça va être ça.
Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.